J'espère avoir des enfants devant moi ce matin, en tout cas au niveau de leur cœur. Parce qu'on doit être comme des petits-enfants pour entrer dans le royaume de Dieu et puis pour recevoir tout ce que Dieu a en réserve pour nous. Amen. Quel est l'état de votre cœur ce matin? Réfléchissez pas trop quand même, hein. Vous avez le droit, mais recevez par la foi. Voilà, on va vous distribuer ce matin un passage qui sera un petit peu la clé du message de ce matin. Il a été tiré à partir de la transcription moderne Parole vivante. Et je vous dis, si vous avez de la peine à lire votre Bible normale, prenez Parole vivante à côté de vous. Et il essaye d'utiliser des termes qui sont plus accessibles parfois, des tournures de phrases aussi qui nous permettent de comprendre des choses un peu difficiles. Voilà, donc j'aimerais lire avec vous ce passage. On peut le projeter aussi, on le projettera dans la deuxième partie du message. Parce que, je vous le dis déjà maintenant, comme ça vous pouvez vous préparer, vous n'êtes pas pris de court, pris à froid, bien qu'il fasse déjà pas mal chaud. J'aimerais qu'on puisse vivre à la fin du message, dans le temps de la Sainte Cène, un temps de reconnaissance. C'est-à-dire que ce texte est tellement riche qu'il va vous permettre au moins de trouver un mot qui vous permet d'exprimer à Dieu votre reconnaissance. Et c'est aussi le but de l'Église, n'est-ce pas? On chante des chants magnifiques qui nous entraînent, qui nous aident à parfois à ressentir le Seigneur proche de nous, mais la prière, c'est la prière. Dire ce qui est là dans mon cœur. Moi, je ne sais pas ce qui est dans ton cœur ce matin. Peut-être qu'il est lourd, peut-être qu'il est chargé, mais il y a aussi cette autre partie, cette présence de Dieu, ces paroles de Dieu, ces promesses de Dieu, les œuvres de Dieu dans ta vie. Et si on peut vivre un bon moment, une espèce d'explosion de prière de reconnaissance, ça serait un moment magnifique. Voilà. Donc lisons Romains 5, 17. En effet, si par la faute d'un seul homme, la mort a pu accéder au pouvoir et exercer un règne incontesté sur une humanité réduite à l'esclavage, il est d'autant plus certain que ceux qui reçoivent les trésors immenses de la grâce et le don de l'acquittement participeront au règne de la vie par Jésus-Christ. Dès ici-bas, la puissance de la vie nouvelle dominera leur existence et jusque dans l'éternité, ils vivront en roi et en reine. Ainsi donc, un homme est tombé et toute l'humanité a été entraînée dans la chute et la condamnation. De même, parce qu'un homme a obéi et a parfaitement accompli ce que la justice divine demande, l'acquittement qui donne la vie est devenu accessible à tous les hommes. Comme par la désobéissance d'un seul, tous les hommes sont devenus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont déclarés justes. Amen. Vous pourriez passer votre vie à méditer ces passages. Voilà. Pour que les personnes qui n'étaient peut-être pas là, il y a deux dimanches ou trois dimanches en arrière, je me permets à chaque fois de revenir un petit peu en arrière par rapport à ce thème sur le péché, pour que vous puissiez suivre et que vous ne soyez pas déconnectés des autres messages. Et c'est bon, hein, de rappeler les choses essentielles. On en a besoin jusqu'à la fin de sa vie, parce qu'on est des auditeurs oublieux souvent. Donc, juste rappeler un mot. On a commencé le premier message sur la base de l'histoire de Caïn et Abel. Et on a vu que Caïn, dans l'erreur qui était la sienne, a trouvé malgré tout à côté de lui un Dieu qui était proche de lui. Puisqu'à un moment donné, lorsque Caïn fait faux, Dieu s'approche de lui et lui dit « Caïn, le péché couche à ta porte, mais toi domine sur lui ». C'est une parole incroyable que Caïn va entendre à ce moment-là. Alors qu'on était déjà dans un état de un monde séparé de Dieu, séparé de la présence de Dieu, mais en même temps, on voit que Dieu n'est pas si loin qu'on l'imagine. Parfois, on l'imagine à des milliards de kilomètres ou d'années-lumière de nous. Et en fait, il est dit que Dieu est proche de ceux qui le craignent. Il est proche de ceux qui le craignent. Donc, Dieu était là pour donner à Caïn la clé pour sortir de son état de péché. Il était proche de lui pour lui montrer comment il était prêt à lui donner les capacités de dominer sur le péché. Ben voilà, vous connaissez l'histoire, ça ne s'est pas passé comme ça. Parce qu'on a découvert dans le fond que le péché était une puissance incroyable. La puissance du péché entraîne l'humanité entière en dehors du dessein de Dieu, en dehors de la volonté de Dieu, en dehors de la présence de Dieu et en dehors de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que en dehors de tout le poids que Dieu pourrait mettre dans ma vie. Sans Dieu, ma vie est vide. Et moi, j'essaye de la remplir de tout ce que le monde me donne. Mais comme c'est des choses qui passent et qui ne sont plus à la mode au bout de 6 mois, je me sens vide, donc il faut que je me remplisse d'autres choses. Mais la gloire de Dieu, lorsqu'elle vient dans nos vies, eh bien, elle nous donne une assise. Elle nous donne quelque chose de constant, jusque dans la vie éternelle. On ne change pas de Dieu tous les 6 mois. On ne change pas de fondement tous les 6 mois. On a un fondement sûr et solide. Amen. Et puis on a vu qu'il y avait quelque chose d'important à découvrir dans notre propre vie, à nous, personnellement. Et on a vu que Dieu avait préparé quelque chose de très particulier pour que nous puissions passer de cet état de péché à quelque chose de nouveau, de différent, d'autre. Et dans le troisième message, on a découvert comment Dieu s'y est pris pour nous convaincre de notre état de péché, de notre nature de péché. Et là, j'ai dit, c'est pas toujours évident, surtout dans un pays dit chrétien, quand on est né en plus dans une famille chrétienne, quand on a entendu parler de Dieu depuis son tout jeune âge, c'est pas évident de dire, mais dans le fond, voilà, tout va bien, je suis né dans une famille chrétienne, dans un pays chrétien, je vais à l'église tous les dimanches, c'est bon, j'ai mon billet pour le ciel dans la poche. Et on a vu dans le fond que Dieu devait d'une manière ou d'une autre nous amener à une conviction de péché. On ne peut pas simplement adhérer à une religion. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que nous revenions dans sa présence, que nous puissions redécouvrir la gloire de Dieu, nous qui en sommes privés à cause du péché. Alors comment Dieu s'y est pris? Comment est-ce qu'il s'y est pris pour nous amener à comprendre que nous étions pas seulement des pécheurs qui commettons des péchés, mais que nous sommes habités d'une nature de péché, d'une fabrique de péché en nous. Les êtres humains, en général, quand je dis les êtres humains, c'est nous, hein, ils sont conscients, en partie du moins, que quelque chose ne tourne pas très rond dans leur vie. Hein. Vous êtes d'accord ou bien? Objection? La cour? Voilà. On sent qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas très rond dans notre vie et dans le monde. Si ça ne tourne pas rond chez moi, ça ne va pas bien tourner non plus dans le monde. Ça, c'est une réalité. On est conscient de nos erreurs, de nos fautes, de nos dysfonctionnements. Et ces dysfonctionnements nous animent et nous plongent dans des situations souvent difficiles. Mais alors, on est champion d'un autre côté pour faire croire que, ah non, tout va bien, TVB, tout va bien, hein. On est champion pour essayer de cacher justement nos erreurs, les dissimuler sous des faux semblants. La Bible nous dit que nous sommes animés de l'orgueil de la vie, dans 1 Jean 2,16. La Bible parle de l'orgueil de la vie. C'est quoi l'orgueil de la vie? Cet orgueil nous empêche de reconnaître humblement cet état de fait. Je suis pécheur. C'est très difficile de comprendre ça. C'est très difficile, humainement parlant, avec la conscience qui est la nôtre en tant qu'être humain. L'orgueil de la vie, c'est le refus, le déni de voir la réalité en face. C'est difficile de reconnaître humblement cet état de fait. Souvent, un prisonnier reconnaît les faits, mais pas son état. Je reconnais que j'ai fait faux, je reconnais que je suis en prison, mais je ne reconnais pas que je suis un mauvais type, un mauvais gars, que quelque chose en moi me pousse à faire des choses mauvaises. Et la parole de Dieu nous montre, à un moment donné, comment Dieu s'y est pris pour nous convaincre de péché, puisque nous n'y arrivons pas nous-mêmes, puisque nous n'avons pas cette capacité-là. Nous avons vu que Dieu avait laissé impuni, c'est étonnant cette parole, dans Romains 3, 25, il avait laissé impuni les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Je me suis posé la question, je me dis, Seigneur, mais pourquoi t'as patienté si longtemps? Pourquoi t'es pas intervenu tout de suite, juste après le péché de Caïn, pour renverser la situation d'une manière incroyable? Bonne question. Enfin, moi, j'en suis arrivé à la conclusion que Dieu avait laissé les choses impunies pendant un temps pour que nous soyons conscients de notre état de péché, en voyant ce que nous sommes en train de... Enfin, les fruits que nous portons. Un arbre se reconnaît à son fruit, n'est-ce pas? Et moi, je pense que Dieu a laissé agir, a laissé faire pendant un certain temps pour que nous-mêmes nous prenions conscience de se dire « Ouh là là, mais c'est pas très beau, hein ? C'est pas très beau ce qu'on est en train de faire. C'est pas très beau ce que je suis en train de faire. Les pensées qui traversent mon esprit, les actes que je commets, les mensonges, enfin, tout ce qui peut m'animer. » Donc, Dieu va laisser impuni pendant un temps. Il laisse faire les choses. Hein? Et dans Romains 6, 21, Paul dira « Quels étaient les fruits d'une telle attitude ? Rien que des actes dont le seul souvenir vous fait rougir de honte aujourd'hui, car ils vous entraînent à la ruine, à une seule issue, la mort. » Donc, dans sa patience, Dieu laisse faire pendant un temps, que ce soit pour l'humanité ou pour ma propre vie à moi. Il laisse faire pour que les résultats soient visibles. Soit c'est les autres qui vous le rendent visible, soit c'est vous qui comprenez que quelque chose ne fonctionne pas, qu'il y a vraiment un problème dans ma vie. Et les fruits que nous portons devraient normalement susciter en nous une prise de conscience salutaire. Se dire, mais on ne peut pas continuer comme ça. Attendez, je vais ouvrir parce que je vois quelqu'un qui se... Il fait chaud hein, chez nous. Hein, ça va mieux ? Voilà. Tout ce que je vois dans ma propre vie devrait m'amener à dire, mais j'y arrive pas, j'en suis pas capable. Le bien que j'aimerais faire, j'arrive pas à le faire, et le mal que je hais, c'est ce que je fais. Saul de Tarse est arrivé à ce moment-là de son existence. Un homme qui a vécu dans la religiosité pendant toute son enfance, toute sa vie jusque-là. Il a été élevé au pied des plus grands maîtres de théologie d'Israël. Et à un moment donné de sa vie, il va réaliser « Misérable que je suis ». Vous rendez compte ? Misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort ? Qui m'affranchira ? Qui affranchira mon corps de l'esclavage des mauvais instincts ? Là, on peut dire qu'il est arrivé au carrefour de sa vie. Là, c'est le moment de pouvoir prendre la décision qui va enfin changer la réalité. Et la première question que je nous repose ce matin, c'est pas pour culpabiliser, comprenez bien, c'est juste pour me resituer dans ma démarche de vie chrétienne. Est-ce qu'à un moment donné, et ça je le sais, est-ce qu'à un moment donné j'ai vécu ce temps de la conviction de péché. Ou face à la croix, où on peut prendre d'autres symboles, d'autres images, j'ai réalisé que j'étais un être pécheur. Ça, on s'en souvient toute sa vie. Ce n'est pas quelque chose qu'on oublie comme ça du jour au lendemain. Quand on disait que certains chants faisaient remonter en nous des souvenirs, si tu ne te souviens pas de ce moment-là, c'est que peut-être tu ne l'as pas vécu. Encore une fois, ce n'est pas pour mettre un fardeau ou peser sur ta vie. Mais c'est le passage obligé. On ne peut pas jouer à la vie chrétienne. On ne peut pas s'habiller d'un manteau de chrétien. Ça ne tient pas. À un moment donné ou à un autre, ça finit par se déchirer de toutes parts. Parce que Dieu a prévu un chemin pour nous. Il sait par où nous devons passer et il sait ce qu'il a préparé pour chacun de nous. Et le passage obligé est celui de la prise de conscience que je suis un être pécheur. Et je peux, à un moment donné, le proclamer, le dire avec mon cœur, avec mes tripes, avec tout. Et pour ce faire, on a vu que Dieu va utiliser un moyen assez particulier. Il va promulguer une loi. Les 10 commandements, alors on peut en rajouter les 5 livres de l'Ancien Testament de Moïse, par exemple, mais il va promulguer une loi. Et cette loi, nous dit l'Écriture, nous fait connaître le péché. Elle est intervenue afin de démasquer le péché, de mettre en évidence sa puissance. voyez ce que Dieu a fait? J'aime bien dire qu'il y a ce passage du Nouveau Testament qu'on connaît par cœur, Jean 3, 16, c'est? Voilà. Ça, on la connaît par cœur. Hein. Enfin, on le connaît par cœur. Et c'est vrai, c'est magnifique. Mais vous savez qu'il y a un passage identique, enfin un passage, une pensée identique déjà dans l'Ancien Testament. Alors, vous n'allez pas la trouver. Hein. Vous pouvez chercher dans toutes les sortes de Bibles qui existent. Mais je pense qu'elle existe de par les faits, de par les actes de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné une loi pour que nous puissions découvrir que nous sommes des êtres pécheurs. Ça, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui nous donne un moyen, puisque nous ne l'avons pas en nous-mêmes, puisque notre nature ne peut pas se regarder en face et dire « Ouh, t'es un vilain pécheur, ouh, il faut que tu changes. » Non. Donc Dieu va nous donner la loi. Et je peux vous dire que la loi, elle va faire un boulot fantastique. Elle va faire un boulot fantastique. Puisque son existence est là pour démasquer le péché et mettre en évidence sa puissance. Elle met le doigt là où ça fait mal. Elle nous pousse dans nos derniers tranchements. Elle ne nous laisse aucun répit. Elle nous accule dans les cordes comme un boxeur. Pam, pam, une loi après l'autre. Tu n'y arrives pas, tu ne peux pas. Essaye, non, je n'y arrive pas. Bon, hein, jusqu'à ce qu'on soit KO debout. Et elle nous emprisonne afin de faire son œuvre, une œuvre salutaire. La loi a été donnée pour nous juger et nous condamner. Il y a plein de lois dans ce monde qui nous jugent et nous condamnent. On avait pris cet exemple de gens qui roulent trop vite au centre-ville de la Chaux-de-Fonds. Tac, la petite lumière salvatrice. Ouh, on met le frein, c'est trop tard. Et voilà, qu'est-ce qu'on reçoit à la maison, Nicolas? Ah, il n'a jamais reçu, lui. Il ment en plus, hein. Il ment. Au lieu de dire oui, j'ai reçu au moins 23 amendes depuis que je suis à la Chaux-de-Fonds. Mais non, il dissimule, il cache, voilà. À 230. 230, voilà. Comprenez? Oui, mais moi, je le dis que j'en ai reçu deux cette semaine. Donc, Non, mais 3 kilomètres de plus, c'est pas... Mais c'est une faute. Donc, la loi va nous coincer. Elle ne nous laisse aucun répit. Il n'y a pas de porte de sortie, on est là. Et elle nous en sert de plus en plus. Alors, il y a des gens qui sont sans foi ni loi. On s'en fiche de la loi. Il n'existe pas, la loi. Ben, souvent, vous les retrouvez en prison, ces gens-là. Ou bien alors plein d'amendes, ou des ouais, bref. Hein. Donc c'est par grâce que Dieu nous donne une loi, c'est par amour pour nous, c'est pas pour nous perdre, c'est pour nous sauver. Parce que c'est dans ces moments-là, quand on est coincé comme dans une camisole de force, qu'on dit « misérable que je suis, mais je vais pas y arriver, mais qu'est-ce qui peut m'aider ?» Et c'est là que nous avons vu que la loi, enfin, l'œuvre de la loi en moi va m'amener à chercher la porte de sortie quand même, le moyen de changer la situation. Et elle nous renvoie à Genèse 3, 5, pour l'Ancien Testament, toujours. Elle nous renvoie à la promesse de Dieu. Dieu a promis l'envoi du Messie. Déjà en Genèse, tout au début de l'histoire de l'humanité, tout au début de l'histoire du péché, un Messie viendra. Un sauveur viendra. Il viendra pour changer, pour transformer cette situation. Donc, on ne peut pas passer de la loi à la grâce sans avoir reçu, expérimenté cette conviction de péché. Et si tu ne l'as pas vécu, vraiment je t'encourage, et on l'a entendu encore ces derniers temps, c'est d'entrer dans ta destinée cette année, d'entrer dans notre chambre, de fermer la porte, et là, dans le lieu secret, ton Père te voit et te le rend. Et vivre ce moment devant sa présence, dire, voilà, moi j'ai des connaissances chrétiennes, j'ai des parents chrétiens, j'ai des frères et sœurs chrétiens, j'ai été à l'église depuis toute ma jeunesse, mais je ne sais pas vraiment. Et là, je peux vous dire que le Saint-Esprit se fera une joie de vous convaincre de péché, parce qu'il a été envoyé pour ça. Le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Une fois vécu ça, vous êtes prêt pour entrer dans la grâce. Une fois vécu ça, vous savez maintenant que vous êtes mûr pour entrer dans ce que Dieu a préparé dans sa grâce. C'est la grâce. Et moi, j'ai un petit peu d'imagination des fois. Vous savez, quand on lit des textes bibliques, on essaye d'aller un petit peu au-delà du texte. Essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, dans quelles circonstances, qu'est-ce qui a pu se dire aussi entre les lignes. Et j'imagine qu'au moment où le temps de Dieu est venu pour proclamer la grâce, il a dû se passer quelque chose de spécial dans les cieux. Je ne peux pas imaginer que le monde angélique n'ait pas été mis au courant de ce qui allait se passer. Et je peux imaginer, alors ça ce n'est pas écrit voilà, dans la Bible, mais je pense que Dieu, à un moment donné, s'est adressé à Satan. Vous avez déjà vu dans Job, hein, c'est étonnant parce que Satan peut tout d'un coup entrer dans la présence de Dieu. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, hein, j'entends. Dieu fait ce qu'il veut, hein, il est Dieu. Et moi, je pense qu'à un moment donné, Dieu a dû s'adresser à Satan et au monde des esprits en rébellion et lui dire, « Satan, tu as cru pouvoir arriver à tes fins en entraînant le genre humain dans ta révolte, dans ta rébellion. Mais, parce qu'il y a un mais, tu ne sais pas ce que tu as déclenché à ce moment-là. Tu ne sais pas ce que tu as déclenché à ce moment-là, ce que tu as ouvert comme voie. Satan, tu vas découvrir maintenant ce que signifie l'amour. Ce que signifie l'amour. Tout ce qui va se produire par amour, tout ce que je vais générer par amour pour mes créatures. Parce que nous avons un prix tel aux yeux de Dieu que Dieu va manifester cet amour d'une manière tellement concrète. Et il va déclencher un espèce de tsunami, mais ce n'est pas le truc violent qui entraîne tout. C'est une suite de vagues qui se succèdent les unes aux autres, une suite de vagues d'amour qui vont se déverser dans ce monde pécheur. Parce que notre être naturellement pécheur ne peut être transformé que par l'amour de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen. En Apocalypse 5:9, il est dit qu'à partir de ce moment-là, des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation ont commencé d'être touchés par cette vague d'amour qui venait de Dieu. Ces vagues successives. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, envoyé, pas seulement donné, mais envoyé son Fils unique Jésus pour nous, pour submerger ce monde de son amour. Et quand Jésus commence son ministère, les gens disent, mais il est tellement différent des hommes religieux. Pourtant, ils en avaient hein, en Israël, ça ne manquait pas. Il y en avait à tous les carrefours, partout où on allait, il y avait des hommes religieux très stricts bon, qui essayaient de satisfaire la loi, et bon, de se plier à tout. Et tout d'un coup, ils voient quelqu'un qui vit différemment, qui parle de Dieu, mais qui est tellement différent, tellement proche des gens, tellement proche des pécheurs. C'est des vagues d'amour qui sortent de lui. Et là, c'est la prophétie de Genèse 3:5 qui se réalise. Elle entre dans sa phase d'accomplissement. Elle est restée longtemps au chaud, cette prophétie. Longtemps. Mais à partir de ce moment-là, elle entre dans sa phase d'accomplissement. La roue de l'histoire tourne. Elle passe du mode loi au mode grâce. Et ça, c'est quelque chose de révolutionnaire, de complètement nouveau. On ne sait pas ce que c'est que de vivre sous la grâce. J'ai déjà pris cet exemple, si vous étiez français, suivez mon regard, vous avez beaucoup d'amendes, beaucoup de... Non, vous finissez par aller en prison. Hein? Si vous avez commis quelque chose de très très grave, vous en avez pour des années et des années. Et là, à part vous amener à faire des boîtes en carton ou bien des petits trucs en prison, on ne va pas vous aider à vous changer vous-même. On ne va pas vous aider, vous êtes en prison pendant 40 ans peut-être de votre vie. Puis soudain, il y a un nouveau président de la République française et lui a le droit de grâce. Au début de son mandat, il peut gracier un certain nombre de personnes. Si vous étiez un de ces prisonniers, vous sauriez ce que signifie la grâce si vous pouviez sortir de prison après 10 ans au lieu de 40 ans. Ça, c'est quelque chose qu'on peut imaginer. Donc la promesse, la prophétie de Genèse 3:5, elle entre dans sa phase d'accomplissement. Et rien ne pourra arrêter ce changement. Rien. Rien. Rien ne pourra arrêter ce bouleversement historique. Ça provoque une réaction en chaîne. Un homme est tombé, un homme a obéi. Hein? Vous l'avez sur vos textes, dans votre texte. Hein? Par la faute d'un seul homme, la mort, par l'obéissance d'un autre homme, la vie. C'est archi simple. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Mais en même temps, on réalise bien dans ces moments-là que nous, on ne pouvait rien y faire. Que seule la grâce de Dieu pouvait nous toucher. Et je vais m'arrêter là, dans le sens que j'aimerais vous faire comprendre ce matin, comment dire ça, le privilège qu'est le nôtre de faire partie de ce peuple de la foi. Vous savez que ce peuple-là existait déjà dans l'Ancien Testament. Des fois, on se dit, mais voilà, c'était la loi, ben, ils n'avaient aucune chance, ils étaient pris dans le contexte. Enfin, tout le monde subissait son état, les répercussions de la loi dans leur existence, ça ne devait pas être marrant. Mais ce n'est pas vraiment ce que la Bible nous dit. Si vous allez chercher dans l'Ancien Testament, vous voyez déjà un peuple de la foi qui se lève. Ça commence avec qui ? Avec Abraham. Il n'est pas dit le père de celui qui a le mieux obéi à la loi. Il est dit qu'il est le père de la foi. Et écoutez ce qu'il est dit aussi à un moment donné dans 1 Pierre 1,10, pour vous montrer que Dieu n'est pas si loin des hommes qu'on l'imagine, mais qu'il est encore une fois proche de ceux qui le craignent. En 1 Pierre 1,10, il est dit, il est parlé des prophètes, là, mais ils ont fait du salut, donc dans l'Ancien Testament, hein, ils ont fait du salut l'objet de recherche et d'investigation. Ils sondaient l'époque, les circonstances de la venue et des souffrances de Christ et de la gloire dont elle serait suivie. Donc déjà dans l'Ancien Testament, les hommes et les femmes qui craignaient Dieu, qui s'accrochaient en fait aux prophéties, à ce que Dieu avait annoncé, ils vivaient quelque chose de particulier. Il est dit d'eux que c'était déjà à ce moment-là l'Esprit de Christ qui était en eux. C'est impressionnant, hein? On n'a rien inventé. Mais déjà dans l'Ancien Testament, Dieu préparait les prémices de ce peuple de la foi, sauvé par grâce. Et tout au long de l'Ancien Testament, vous pouvez lire Hébreux 11, c'est par la foi, par la foi, par la foi, par la foi, que ces gens... Donc, on voit que ce n'est pas très compliqué. Mais que nous compliquons les choses avec notre arrière-plan religieux, avec tout ce qu'on a mis entre Jésus et nous, entre la parole de Dieu et nous, c'est impressionnant. Donc Dieu préparait un peuple, le peuple sous la loi, mais qui était déjà dans la foi. En Luc 1,67, le père de Jean-Baptiste, on est encore sous la loi, Jésus est là, mais le père de Jean-Baptiste, non, il n'était pas là encore, puisqu'il vient de, il vient de naître, donc c'est encore pas fait. Hein. Il dit, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur. » Pas un mini-sauveur, pas un Goldorak, pas un Batman, non, un puissant sauveur. Hein, « dans la maison de David, son serviteur. » Donc on voit que l'Esprit de Dieu était déjà en lui, suscitait déjà en lui ses paroles de foi. Il est dit de Moïse aussi, en Hébreux 11, 27, qu'il voyait celui qui était invisible. Vous voyez ces expériences incroyables que ces hommes et ces femmes ont déjà vécues bien avant nous. Alors, encore une fois, je vais terminer ici, mais j'aimerais vraiment vous encourager en tant que peuple sous la grâce maintenant, en tant que peuple qui marchons par la foi, à proclamer ces vérités. Ces vérités, quand moi je les proclame, elles provoquent aussi une atmosphère en moi, autour de moi, qui est une atmosphère de liberté, de vie. Si je ne proclame pas ces choses, si je les garde en moi, c'est comme l'argent dans les banques aujourd'hui, elle rapporte rien. Parce que la parole de Dieu est faite pour être transmise, il nous la donne pour que nous puissions la proclamer pour le monde spirituel qui nous entoure, pour ceux qui nous entourent, pour les gens qui sont autour de moi. Et là, elle devient vivante. Et là, elle commence de se manifester. En Ésaïe 14:7, il est dit que toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chants d'allégresse. Vous voyez, ce peuple de la foi, ce peuple qui vit sous la grâce, c'est un peuple qui éclate en chants d'allégresse. Dans le psaume 149:3, il est dit qu'il loue son nom avec des danses, qu'il pousse des cris de joie. Ça, c'est le peuple de la foi, le peuple qui est sous la grâce, alors que le peuple qui est dans l'esclavage ploie de plus en plus sous le fardeau. Et enfin, en Malachie 4:2, vous sortirez et vous sauterez comme les veaux, hein, d'une étable. Alors non, allez-y doucement, hein, parce que voilà. Mais vous voyez, ce changement de paradigme complet, ce changement d'atmosphère. Rappelez-vous quand vous étiez sous la loi. Prenez conscience maintenant que vous êtes sous la grâce ou que vous pouvez y arriver en passant par le chemin que Dieu a préparé. Amen. Amen. Le prochain message, on verra qu'est-ce qui se passe quand on passe de la loi à la grâce. Quels sont les choses qui vont changer en nous, hein, pratiquement, concrètement. Qu'est-ce qui va changer du côté de Dieu et de mon côté? Et on verra jusqu'où la grâce peut nous entraîner. Qu'est-ce qu'elle est capable de faire de chacune de nos vies? Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse prendre maintenant un moment de silence. On entrera dans la Sainte Cène et méditer ce passage. Et puis on prendra un temps pour de reconnaissance, de remerciement, s'arrêter sur un mot et dire avec mon cœur voilà, ce que ce mot procure en moi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier. Te remercier pour ton amour. Te remercier pour le chemin que tu as tracé devant nos pas. Alors que nous faisions du surplace, alors que nous tournions en rond, alors que nous étions incapables de nous sortir de notre état de péché, tu as imaginé des choses incroyables. Tu as imaginé tout un processus qui pouvait nous conduire de la mort à la vie. Et tu l'as fait en Jésus-Christ d'une manière aussi incroyable. Et nous voulons vraiment être reconnaissants ce matin pour l'œuvre que tu accomplis désormais dans nos vies, à la gloire de ton nom. Amen. Amen, amen.